Bonjour monsieur le recteur, on a quelques questions à vous poser pour réaliser une interview pour le club journaliste du collège. Nous c'est Esteban et Antonin, on y est depuis qu'on est en 6e. Comment expliqueriez-vous simplement votre fonction ?
Je me présente d'abord, donc je suis Karim Benmiloud, je suis le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand depuis bientôt 5 ans. J'avais été nommé en juillet 2019. Le recteur ou la rectrice, c'est le représentant ou la représentante du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et donc, je suis son représentant ici, en Auvergne, dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Il faut savoir qu'il y a 30 académies en France, à la fois en métropole, Académie de Clermont-Ferrand où nous sommes. À côté de nous, il y a l'Académie de Limoges, l'Académie d'Orléans-Tours, l'Académie de Lyon. Alors, quelle est ma mission ? Je m'occupe de toute l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, c'est le plus grand ministère en France. Hein, c'est le premier budget de l'État. Donc, c'est une très grosse administration. Et je m'occupe de toutes les affaires éducatives, depuis les écoles, les collèges et les lycées. Je suis accompagné aujourd'hui de Madame l'inspectrice d'académie, qui s'appelle Roselyne Lamio-Rousseau, qui s'occupe, elle, plus particulièrement du département de l'Allier, et plus particulièrement des écoles. Mais ma fonction, c'est vraiment toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de l'académie. Ça fait 210 000 élèves, ça fait 23 000 personnes, personnels, des professeurs, évidemment, mais aussi des chefs d'établissement, madame la principale adjointe, la vie scolaire, les CPE, les AED, mais aussi les infirmières scolaires, les assistantes sociales. Donc c'est beaucoup, beaucoup de métiers et de professions, et ça fait 23 000 personnes. Donc pour s'occuper de toute cette administration, il y a un recteur avec le rectorat qui est à Clermont-Ferrand. J'ai avec moi des équipes, une DRH, un secrétaire général, beaucoup, beaucoup de collègues, des inspectrices et des inspecteurs, beaucoup de personnel administratif. Et ça fait à peu près 500 personnes qui s'occupent des 22 500 autres personnes de l'académie. Et de quoi on s'occupe ? On s'occupe d'abord beaucoup de ressources humaines, voilà, parce qu'il faut trouver les professeurs et les affecter dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc c'est vraiment des opérations qui sont très complexes. Mais on s'occupe aussi des programmes, mais on s'occupe aussi des liens avec les collectivités, avec les élus. Vous savez que dans un collège ici, moi je m'occupe de toute la partie des professeurs et des programmes, mais il y a des élus, le conseil départemental, qui s'occupe des bâtiments. Donc on s'occupe aussi de toute la partie de dialogue, de travail, de coopération avec les élus. Donc soit le conseil départemental pour les collèges, soit les mairies pour les écoles, soit la région pour les lycées. Donc voilà, c'est essentiellement mon travail. Je pourrais rentrer encore un peu plus dans le détail, mais c'est pour vous donner un peu une idée de mes missions.
Est-ce que vous avez des perspectives pour les années à venir ?
Alors, peut-être d'abord dire que ce que j'ai un peu essayé de faire moi dans l'académie depuis que je suis arrivé, moi je suis d'abord un professeur avant d'être recteur d'académie. Moi je suis professeur de langue, professeur d'espagnol à l'université. Donc quand j'ai pris mes fonctions, pour moi c'était très important de développer la dimension de la politique des langues, la dimension linguistique, l'apprentissage des langues, à la fois dans les écoles et puis aussi au collège et au lycée. Moi, je suis un professeur de lettres, donc je suis très attaché à la culture, à l'éducation artistique et culturelle, à la promotion de la lecture. On a lancé le quart d'heure lecture dans l'académie depuis que je suis arrivé, donc ça fait partie des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis, en lien avec la politique qui a été voulue par les ministres successifs, on a essayé de beaucoup insister ces dernières années sur ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire le français et les mathématiques, pour renforcer le niveau des élèves dans ces deux grandes disciplines. Donc ça, c'est à la fois des projets qui me tiennent à cœur personnellement et puis aussi ce que nous demandent plus particulièrement le ministère et les ministres qui se sont succédés. Je pourrais peut-être ajouter une chose aussi. Parmi les choses qui me tiennent vraiment à cœur, il y a la question de l'égalité filles-garçons. Et dans l'académie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé depuis 5 ans avec des labellisations d'établissements autour de l'égalité filles-garçons, avec beaucoup de projets aussi pour promouvoir notamment la culture scientifique, les mathématiques, la physique-chimie, le numérique, les sciences de l'ingénieur, pour les jeunes filles tout particulièrement, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui s'engagent dans ces filières et que c'est un enjeu d'égalité important. Donc voilà, ça fait partie à la fois de projets très concrets et plus généraux qu'on a travaillé ensemble avec les collègues dans l'Académie de Clermont-Ferrand.
Est-ce que vos fonctions, elles correspondent à ce que vous pensiez avant d'avoir pris ce poste ?
Alors, c'est une bonne question. Moi, j'étais professeur à l'université depuis de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Et j'aime beaucoup enseigner à l'université. J'aime beaucoup la relation avec les étudiants et les étudiantes. J'aime beaucoup transmettre. J'aime beaucoup la recherche aussi, parce que quand on est à l'université, on fait de la recherche. Toute cette partie-là me passionne et m'a passionné. Mais au bout de 20-25 ans, j'ai eu envie de faire un peu autre chose et d'être dans des choses un peu plus concrètes. Parfois, la recherche, c'est un peu théorique. On travaille beaucoup sur des livres, on est beaucoup en bibliothèque, on est parfois un peu seul. Et j'avais envie aussi d'un métier avec plus de relations, avec des environnements plus variés. Donc, c'était une des motivations pour devenir recteur. Là, j'ai trouvé de grandes satisfactions, parce que le recteur d'académie, voilà, je vous ai dit, il est en lien avec les élus, les députés, les sénateurs. Il est en lien aussi avec le monde du sport. On travaille beaucoup avec les clubs, avec les fédérations. On est en lien avec le monde de la culture. Lorsque vous allez visiter une exposition, lorsque vous allez au spectacle, très souvent, on a signé des conventions avec les acteurs du monde de la culture. On est en lien avec les armées sur les questions des commémorations, le 11 novembre, le 8 mai, etc. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens très différents, des univers très différents. J'ai, grâce à mes fonctions, pu visiter des sites industriels, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les entreprises, avec le monde économique. Donc, c'est quelque chose de très enrichissant pour cela. Dans les choses que je n'avais pas complètement imaginées, mais comme personne, je crois, il y a eu ce que j'ai eu à gérer au tout début quand je suis arrivé, c'est-à-dire l'épidémie de Covid. Moi, c'est arrivé, j'étais en poste depuis 6 mois. Et puis, les écoles ont fermé. On a mis en place des protocoles. Il y a eu l'école à la maison. Donc ça, c'était quelque chose de complètement inimaginable. Voilà. Alors, personne ne l'avait imaginé, ni les élèves, ni les professeurs, ni personne. Mais il se trouve que en tant que recteur, j'ai dû aussi prendre ma part pour contribuer à régler les problèmes, à trouver des solutions. Et ça a été une partie assez, assez pesante, même si évidemment je l'ai fait puisque c'était mon rôle et que je devais aussi m'occuper de ces choses-là. Et puis après, pour aborder une question qui est importante et qui peut vous faire comprendre un peu aussi ce que je fais, on gère aussi, quand on travaille au rectorat, quand on est le recteur ou l'inspectrice d'académie, on gère aussi les situations, ce qu'on appelle les situations de crise, des situations très sensibles, par exemple des violences qui sont commises par des élèves sur d'autres élèves, les situations de harcèlement, vous savez, qui peuvent aller très très loin, qui peuvent causer des dégâts psychologiques ou physiques très graves. Et ça, c'est une grande responsabilité, parce qu'en lien avec ce qui se passe dans les écoles ou dans les collèges, eh bien, on a la responsabilité de bien traiter ces situations-là, c'est-à-dire d'intervenir très tôt, de protéger les victimes, de les accompagner, et puis de faire cesser ces actes quand ils sont commis. Donc ça implique d'être bien informé, d'être très réactif, de travailler avec le monde de la justice, avec le monde de la police ou de la gendarmerie. Et ça, c'est une responsabilité qui est lourde, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il faut être extrêmement vigilant, extrêmement réactif. Donc, ça, peut-être que je l'avais un peu moins en tête quand j'ai pris mes fonctions, mais c'est aussi une part, évidemment, que j'assume et qui est essentielle à la bonne réalisation de mon travail.
Une dernière question pour conclure cette interview. Pensez-vous que l'éducation aux médias et à l'information est importante dans la formation des élèves ?
Alors, je pense que c'est très important parce que, en tant qu'éducateur, formateur, professeur, on se doit de vous transmettre des clés de compréhension du monde. On se doit de vous aider à devenir des citoyennes et des citoyens éclairés, émancipés, c'est-à-dire qui sont capables de penser par eux-mêmes. Donc c'est ça l'objectif de vos professeurs en EMI, vos professeurs d'histoire-géographie. Et c'est un travail essentiel parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication, ils ont beaucoup évolué. Et quand on travaille l'EMI, quand on travaille sur une web radio, sur un journal de collège, quand on contribue à créer un contenu d'information, quand on fait une interview, comme là vous êtes en train de le faire, on comprend mieux comment l'information elle est construite, comment elle fonctionne, quels sont les éléments importants, ce qu'il ne faut pas oublier de préciser. Et si on est très bien informé, on sait en réalité qu'il peut manquer une information importante pour comprendre ce que la personne dit. Donc ça, je crois qu'on le comprend mieux quand on a soi-même pratiqué, comme en écrivant une interview, en publiant un journal, donc sur la qualité de l'information, sur la façon dont on source la formation. Évidemment, quand on voit circuler des affiches, des informations étranges sur les réseaux sociaux, c'est important de savoir d'où elles viennent. Souvent, elles viennent d'un peu n'importe où. Elles sont transmises par des gens qui ont des intentions très particulières, qui ne le disent pas toujours, souvent pas du tout. Et c'est important de savoir que ces informations-là n'ont pas du tout la même valeur qu'une information qui a été produite par un journaliste qui a des diplômes, qui travaille pour un média indépendant et qui pense à donner toutes les informations essentielles. Donc, pour moi, l'éducation aux médias et à l'information, c'est vraiment une grande avancée, collège notamment, parce que ça n'existait pas du tout. Voilà, pour vous, c'est peut-être une évidence, parce que je crois que c'est vraiment un outil qui vous permettra ensuite de mieux comprendre les informations, de mieux les traiter, d'avoir un regard aussi plus critique pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Merci d'avoir participé à cette interview, monsieur le recteur.
Merci à vous.